vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 82. Le prix Pulitzer pour le fantôme de Zellwiller. Ah, chers amis, bonjour. Ah, l'oubli. Ah, nous évoquons par plaisir de la littérature, la recherche du temps perdu et les jeux du hasard dans notre émission sur Radio Judaïca Strasbourg. Vous l'avez bien connu, mais ce souvenir des amours mortes, se rappeler le souvenir de la grand-mère, du nom de son institutrice en classe de 11e. Vous vous souvenez de son nom, de Madame, voilà. Ou même de la plaque d'immatriculation de sa première deux chevaux, de votre première voiture. Alors, ce n'est pas vivre dans le passé, c'est avoir le passé dans sa petite poche, qu'on ouvre de temps en temps. Moi, c'était 701 DS67. Oui, c'était une deux chevaux grise avec le coffre rond à l'arrière. C'était la voiture de mon papa, en fait, en 1960. Il avait acheté cette voiture pour promener la grand-mère, ma grand-mère, enfin la maman de ma maman. Elle était très malade. Et donc, ils avaient pensé que lui faire des promenades en voiture pour voir un petit peu la jolie campagne alsacienne, ça lui ferait du bien. Et quand ma grand-mère, la vieille dame, est décédée, ben papa a revendu la deux chevaux parce que cela revenait bien trop cher. Alors aujourd'hui, le premier épisode de notre émission s'intitule « Le prix Pulitzer pour le fantôme de Zellwiller ». Vous allez voir, c'est une histoire avec une vieille dame. Elle a fait 10 fois le tour du monde. Elle a filmé, photographié et écrit sur tous les pays. Elle avait fait ses études à Strasbourg, à l'école de journalisme, le prestigieux QEJ. Elle quitta son village sans se retourner. Elle oublia les jeux d'enfants où, tout en s'éparpillant dans les champs de maïs, on faisait attention à bien rester ensemble. Même, elle méprisa Zellwiller, qui était son village d'enfance, qui pourtant n'est pas un trou perdu, Zellwiller, quoique le village se retrouve à la fin de la liste alphabétique des communes du canton. Peut-être est-ce le jour où la petite rivière Landelot fut enfermée dans des canalisations qu'elle décida de partir au loin et de suivre des fantômes. La réalité du monde n'était que dans son imagination. Le Zell de Zellwiller vient du latin cella, la cellule de l'ermite. Alors l'ermite, très peu pour elle. Aux quatre coins du globe, elle vit des merveilles. Peu lui importait ceux qui avaient de la fortune, du succès, de hautes situations. Et elle décrocha les prix les plus prestigieux, Pulitzer, Albert Londres et la Légion d'honneur, pour des histoires qui étaient des moments insignifiants. Un paysan en faillite, une vendeuse d'éthyrotroxylacée, c'est la coca, c'est le nom scientifique de la coca. Et puis l'histoire d'un boat people de 6 ans, et puis d'un mourant du sida, et puis le soja en Argentine, et puis un guérillero de la paix portoricain. Plein de reportages et des livres. Aujourd'hui, elle remonte le village en flânant. Elle n'est pas revenue depuis l'élection de Mitterrand. Elle a disparu, avaient dit les gens il y a 40 ans. La journaliste s'arrête pour aborder cette vieille dame qui ne semble pas bavarde. Il faut savoir écouter et faire parler. Et la dame toute courbée dans ses habits noirs sait parler. Voilà. Alors, elle raconte son histoire. Alors, on est dans les rues de Tzellwiller. Hein. Il y a un petit peu d'animation. Peut-être que c'était le jour du marché. Enfin, voilà. Donc, la dame, elle va raconter son histoire. À 18 ans, elle avait eu, comme une autre, son histoire d'amour. Un jeune homme d'apparence cossue qui s'imaginait qu'elle le devinait et puis qui finit par épouser une vieille femme très riche. Ce fut un chagrin désordonné, raconte-t-elle. Et trop boire fut alors la seule chose qui comptait, indifférente à l'avenir. Elle eut d'autres amours encore, mais le premier les lui rendait insipides, et elle vécut le reste de sa vie, plus de 60 ans, détachée de tout, ce qui était un acte de volonté suprême. La vieillarde observe cette grande dame élégante qu'elle vient de rencontrer, si aimable, si douce, et qui pose des questions du regard, sans même prononcer une phrase. La vieille dame est digne, oui, elle est contente de parler. « Oui, j'ai une fin de vie apaisée, dit-elle. J'ai voulu tout oublier. » Et elle dresse une liste de petits bonheurs comme des rituels. Le car Mugler pour aller en ville à la foire des quatre vents. Le mesti et la barbe à papa. La chorale de l'église avec le nouveau curé. La bouchère dans le Citroën tube le vendredi à 11h. Et le mariage du fils du maire où elle fut invitée. Alors la journaliste qui a fait ses 10 tours du monde, elle rêve de prendre sa retraite. Elle écoute cette vieille dame qui lui raconte toutes ces petites histoires qui remontent à 10, 20, 30, 40 ans. La journaliste, elle aimerait se reposer, s'arrêter quelque part. Alors pourquoi pas là, à Tzellwiller, où tout semble si calme et si tendre. Et soudain, la journaliste fuit. Elle quitte précipitamment le village et cette vieille dame qui ne l'a pas reconnue. C'était sa maman.
Thank you.
C'était le caprice numéro 24 de Paganini en la mineure, interprété par Alexander Markov. Alors la deuxième petite histoire de notre émission aujourd'hui, vous l'avez bien connue, sur Radio Judaïque à Strasbourg, cela se passe à Heiligenstein. Alors, je n'aime pas trop les histoires larmoyantes, mais disons que là, mon petit récit est assez émouvant. Je vous rappelle que je m'amuse à faire de la littérature et que tout ce que j'invente est vrai. Mon récit se nomme « Une fête et un bébé à Heiligenstein ». Deux fois par semaine, de Heiligenstein à Strasbourg, trajet en VSL, véhicule sanitaire léger. Mais le cancer n'est pas léger. De la fontaine de l'ours de Heiligenstein, la rue de l'enfer, avec son crabe, jusqu'à l'Institut d'oncologie médicale rue Silbermann, les grandes orgues. Toute la famille se concerte pour elle, la chère maman, si jeune encore. Mais on sait qu'elle n'en a plus pour longtemps. Alors peut-être un miracle, mais cela n'arrive pas souvent. Et puis un jour, elle est si malade, elle dit « J'arrête les soins, tant pis. Je vais faire une grande fête, inviter tout le monde. C'est le printemps, on dressera des auvents dans le jardin. J'adore le couscous et les côtelettes d'agneau. On invite un orchestre, je veux vous voir danser. Je veux tous vous embrasser avant de partir. » Alors, est-ce qu'on s'habille en dimanche ou bien en normal? Est-ce qu'on fait comme si de rien n'était? On fait semblant pour lui faire plaisir? Est-ce qu'on lui offre des cadeaux? Oui, mais quels cadeaux? Proust en Pléiade ou les 4 volumes de la correspondance de Flaubert? Mais ce sont des années de lecture. Un pull? Une écharpe? Ah, un voyage! Oh non, mais c'est impossible! Elle est bien trop faible. Son bonheur, c'est de voir autour d'elle ses enfants, et déjà ses petits-enfants. Elle le dit, elle aimerait bien voir tous ses enfants mariés avant de partir. Alors Emma va lui faire vraiment plaisir. Alors Emma, c'est l'aînée, elle est en doctorat de biologie, elle a un copain depuis toujours, mais ils ne sont pas pressés d'avoir des enfants. « Mais quand est-ce que vous allez me faire, comme ton frère, une petite fille ou un petit garçon ?» demande gentiment la mourante. « Mais oui, maman. » Emma va à la pharmacie acheter un test de grossesse. Elle ne peut en parler à personne. La famille se retrouve dimanche pour la fête. C'est dans 3 jours. Elle prend le tram et elle observe les drôles de dames. Elle scrute les ventres. Elle devine les futures mamans. Alors, pas facile de demander « Excusez-moi, madame, vous pourriez me mettre une goutte de pipi sur ce test ?» Alors, elle essaye d'expliquer « Mais aujourd'hui, on se méfie de tout. Non, mais ça va pas, vous êtes folle, vous êtes une névrosée. » Après 3 refus, Emma est désemparée. Et c'est là qu'un monsieur lui dit « Allez, venez chez moi. » J'ai compris votre histoire. Ma femme est enceinte de 4 mois, venez. » Le dimanche après-midi, dans son jardin fleuri d'Heiligenstein, la malade, dans une robe écarlate et flamboyante, contemple sa famille, si joyeuse autour d'elle. Chacun à tour de rôle vient lui parler d'avenir, de la beauté des choses et des merveilles du monde. La consigne est simple, strictement interdit de pleurer. Et Emma embrasse sa maman et lui dit « Ah, j'ai un cadeau pour toi. » Et devant le test de grossesse positif, la future grand-mère laisse couler ses larmes. « Quel bonheur, mais c'est magnifique! Mais que je suis contente pour toi. Ah, tu sais, Emma, si c'est une fille, surtout ne lui donne pas mon nom. Nous, les mortes, on est faites pour oublier. Elle ne peut pas porter le prénom d'une morte. » sa grand-mère, tu lui raconteras combien elle est partie heureuse. Cela suffira pour qu'elle se souvienne de moi. C'était le premier caprice en mi majeur de Paganini, joué par Alexander Markov. Troisième récit, nous allons à Molsheim. Alors c'est une belle histoire parce que c'est une histoire d'amour. Ah, l'amour, toujours l'amour. Mais pas l'amour à la maison, dans la famille, l'amour de faire les courses, torcher les enfants et attendre le soir pour regarder la télé ensemble. Non, l'amour audacieuse, celle des romans. Le petit train-train des amoureux poètes de Molsheim. Alors, c'était bien avant les réseaux sociaux, dans les années 1980, qui étaient un peu zozo. Pour lancer une bouée à la mer, on écrivait au journal qu'il a publié la petite lettre à la rubrique « Rencontre ». « Je vous ai vu, vous êtes vu, vous êtes-vous reconnu ?» Et puis suivez un chiffre de référence pour la rédaction qui transmettra. Alors ce jour-là, la petite annonce, là, c'était « Vous portez une blouse blanche bien repassée et non boutonnée sur un jean bleu délavé. Je vous vois monter chaque matin à l'arrêt de la gare de Molsheim. » Molsheim, quelle adorable petite ville! Ce jour-là, la jeune fille, si aimablement détaillée, répondit élégamment à la rubrique des petites annonces personnelles. Molsheim est sans secret. Ma vie est sans mystère. Mon bonheur est public, je ne peux le taire. Votre cœur par-dessus tout craint d'être solitaire. Oui, il faut être deux pour le bonheur sur terre. De votre immense amour, en un moment conçu, avant qu'il ne fût né, je crois que je l'ai su. Tous les passagers de l'autorail Aubernay-Molsheim s'amusèrent de l'idylle naissante. Il n'y avait que 13 kilomètres avant que l'on ne descende. Était-ce lui, un bouquet à la main ? Était-ce elle, au sourire chagrin ? Pourriez-vous, m'adorant, passer inaperçu ? Mais il fallait demander et vous auriez reçu. Quoi ? C'est déjà trop tard, cette belle histoire serait un cauchemar. L'audacieux, un peu trop timide, et la jolie qui joue la sylphide. C'est en train qu'au Parnasse, un téméraire auteur pense de l'art des vers atteindre la hauteur. La jeunesse amoureuse n'ayant pas d'âge, les passagers se mobilisèrent pour forcer le destin d'un coquin passage. Altorf, Avolsheim, Dachstein, Dorlisheim, Mutzig, Soultz-les-Bains, Volksheim. Dommage, personne ne monte ni ne descend. On imagina l'amoureux venant de Saint-Dié ou de Saverne via Vasselonne. On lui suggéra des rendez-vous à la porte des forgerons ou à l'hôtel de la Monnaie. Les jeunes filles toutes portèrent des chemisiers blancs, échancrés, repassés, déboutonnés, des chemisiers, oui, mais libérés. Le journal répéta la petite annonce. Les fleuristes inventèrent de charmants petits bouquets voyageurs. Molsheim se pâmait. Mais que c'est bon d'être tourtereau sous les tilleuls et d'être porté par des semelles de vent. Un vigneron réserva une cuvée pour lui donner les prénoms des langoureux des dévoilés. Peut-être était-ce le fantôme de l'écrivain Camille Schneider, qu'on disait amoureux de sa maman et qui s'amusait à leurs dépens, ou le peintre de la palette d'or, vous savez, Jean-Paul Schaeffer, à la recherche des scènes bucoliques de cet heureux transport. Le plus discret désir murmurait sous vos pas. Nous devinons ce couple. On n'insistera pas. Les amoureux, il est vrai, s'adorent en secret. C'était le caprice numéro 2 en si mineur de Paganini, interprété par Alexander Markov. Voilà, c'était l'épisode numéro 82 de Vous l'avez bien connu, où l'on s'amuse à vivre par procuration de belles histoires alsaciennes. La semaine prochaine, nous retrouverons la chanteuse Barbara à Dorlisheim et je vous raconterai l'histoire d'un jeune homme nazi d'Aubernais dont on ne veut plus se souvenir, et de son fils qui est devenu professeur de philosophie et qui ne sait pas comment haïr son cher papa, si gentil. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli, et mon nom est Ambroise Perrin. Two fellows meet. Like you and I. No connection between them.